Aujourd'hui, Muriel Magnier. Muriel est membre de notre association. Muriel, vous allez nous présenter aujourd'hui une conférence consacrée au peintre Manet, qui a été considéré comme le chef de file des impressionnistes. Il fit scandale en son temps par ses sujets, et pourtant il n'avait, vous allez nous le dire, aucune intention révolutionnaire. Muriel, c'est un grand plaisir, c'est avec un grand plaisir que nous vous écoutons.
Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vais enfin mettre en pratique notre devise, pratiquer ce que l'on sait et se faire plaisir ensemble. Donc, Édouard Manet. Édouard Manet est l'un des peintres français le plus important de la deuxième moitié du XIXe siècle. Il s'inspira essentiellement des peintres espagnols du siècle d'or. Il fut considéré, grâce à la probité de son naturalisme et par ses audaces picturales, comme le chef de file des impressionnistes. Dans le monde de la peinture, il fut bien malgré lui à l'origine de grands scandales, et il en souffrit. Mais ce fut le prix à payer pour amorcer la révolution que fut l'impressionniste. Je souhaiterais pour commencer vous invitez au salon officiel de 1865 qui a lieu à Paris au Palais de l'Industrie. Je vous rappelle que nous sommes sous le règne de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Pour être reconnu comme peintre et avoir la chance de vendre ses toiles et avoir des commandes, un artiste devait être présent au salon officiel. Mais malgré une sélection drastique, les toiles sont très nombreuses, 3556 en 1865, et elles sont accrochées les unes au-dessus des autres. L'art officiel est celui-ci, une peinture très académique. Monsieur Cabanel et M. Bouguereau règnent en maître. Comme il est de coutume en 1865, l'empereur et sa femme se devaient de visiter le salon. La visite du couple impérial ne dura que 25 minutes. Mais l'impératrice, qui ne s'arrêtait devant rien, fit une pause devant Olympia, lui souffleta le ventre d'un coup d'éventail. Il n'en faut pas plus pour créer un scandale. Olympia, voilà le tableau qui créa le scandale. Les gens lui donnaient des coups de parapluie et des coups de canne, tant et si bien que les organisateurs du salon durent mettre sa toile sous protection de la police pour éviter sa destruction. Mais que représente Olympia ? Olympia, une femme nue, allongée, une servante noire lui apportant un bouquet, avec un chat dans un coin. Mais pour la majorité, il s'agissait d'une pierreuse de chez Paul Niquet. Explication. Une pierreuse, c'est une prostituée, mais la pire des prostituées, celle des bas-fonds. Quant à Paul Niquet, il tenait une maison d'abattage. Cette horrible toile est comme un défi jeté à la foule. Mais qu'est-ce que cet odalisque au ventre jaune, ignoble modèle ramassé je ne sais où ? Olympia ? Une gorille femelle plutôt. C'est d'une vulgarité inconcevable, son corps à la teinte livide d'un cadavre, exposé à la morgue. Ses lignes sont dessinées au charbon. Il n'y a plus là que la lutte criarde de tons plâtreux avec des tons noirs. L'effet est blafard, dur, sinistre. Cet art-là n'est pas sain. Jamais on n'a jamais vu effroyablement grimacer les lignes et hurler les tons. Mais que représente finalement Olympia ? Olympia, c'est une femme nue, allongée avec sa servante noire, lui apportant un bouquet, avec un chat dans un coin. Mais alors pourquoi ces critiques ? Parce qu'auparavant, une femme ne pouvait être représentée nue qu'à travers un prétexte historique ou mythologique, comme Vénus par exemple. Mais ici, Vénus est devenue une prostituée qui défie du regard le spectateur. Le modèle n'est plus un objet passif de désir, mais une femme douée d'une personnalité revendiquant son droit au plaisir. Le corps est éclairé d'une lumière crue. On dira que son corps est d'une blancheur sale et que même le chat semble avoir les pattes sales. Ces mules sont également un symbole de modernité. Mais pour composer cette toile, Manet s'est inspiré de la Vénus d'Urbino du Titien. Vénus d'Urbino qu'il avait déjà copiée lors d'un voyage en Italie. Il s'inspira également de la Mara nue de Goya. Le but de Manet, comme il dit lui-même, ce n'est pas de provoquer, mais c'est être à même de traduire les mœurs, les idées et les aspects de mon époque. Selon mon appréciation et en un mot, faire de l'art vivant. Voilà ce que disait Manet. Nous pouvons remarquer les bijoux modernes, la fleur exotique, la pilosité sous les aisselles, le petit cordon autour du cou, tout un symbole pour celui qui le dénoue. Sa position de la main sur son sexe, bien différent de celle de la Vénus d'Urbino. Le visage de la servante noire. Toute une variation de noir crée ce visage. Le bouquet. Il semble être le premier bouquet impressionniste. Quant au chien, il s'est transformé en chat, du symbole de la fidélité à celle du diable, avec la queue dressée. Manet est profondément touché par ces critiques. Heureusement, son ami Baudelaire le consola. Ainsi, vous avez l'honneur d'inspirer de la haine, mais avez-vous plus de génie que Chateaubriand et que Wagner ? On s'est moqué d'eux, cependant, ils s'en sont pas de morts. Zola aussi prendra sa défense. Lorsque nos artistes peignent des Vénus, ils corrigent la nature, ils mentent. Édouard Manet s'est demandé pourquoi mentir ? Pourquoi ne pas dire la vérité ? Pour le remercier, Manet fera son portrait avec le tableau d'Olympia accroché au mur. Olympia fut le nu le plus scandaleux jamais peint. Et pourtant, quelques mois plus tôt, un autre tableau de Manet avait déjà provoqué un scandale. Le déjeuner sur l'herbe, présenté au Salon des Refusés en 1863. Il s'agit d'une représentation grandeur nature d'un pique-nique inspiré du concert champêtre de George John, ainsi que du Jugement de Paris de Raphaël, connu par la gravure de Marco Antonio Raimondi. Toutefois, ces allusions échappent complètement au public, ainsi qu'aux critiques de l'époque, qui ne voient dans ce déjeuner sur l'herbe qu'une scène contemporaine. Victorine Meurant prête ses traits à la jeune femme au premier plan, dont la nudité fait scandale. À gauche, Gustave Manet, frère de l'artiste. À droite, le sculpteur Ferdinand Linhoff, son beau-frère. En arrière-plan, son épouse Suzanne Linhoff. On peut noter les restes du déjeuner, charmante nature morte s'il en faut. Manet dira « Je n'ai jamais voulu choquer », lui qui ne cherchait finalement que la conformité, d'où sa volonté de se montrer au salon officiel. Manet souffrira toute sa vie de ces scandales. Olympia resta dans le fond de son atelier durant toute sa vie, Manet lui-même refusant de la regarder. Dès qu'il exposait, pourtant, le public accourait. Et tout le monde accourait. Pourquoi ? Pour se dilater la rate, comme on disait à l'époque. Mais aucun tableau n'était jamais vendu. Baudelaire dira, à la suite de tous les problèmes de Manet, « Manet a un grand talent, un talent qui résistera, mais il a un caractère faible. Il me semble désolé, abasourdi par le choc. Mais ce qui me frappe, c'est la joie de tous ces imbéciles qui le croient perdu. » Mais en fait, qui est Manet ? Eh bien, Édouard Manet est né le 23 janvier 1832 à Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Son père, Auguste Manet, est un haut fonctionnaire au ministère de la Justice. Sa mère, Eugénie Désirée Manet, née Fournier, est une fille de diplomate affectée à Stockholm. Son parrain n'est autre que le maréchal Bernadotte. Donc, Manet vit dans une famille de la haute bourgeoisie, mais une famille austère. Heureusement, Édouard découvre rapidement le monde artistique grâce à son oncle, le capitaine Édouard Fournier, qui fait apprécier les grands maîtres à ses neveux, à Édouard et à son frère Eugène, en visitant le Louvre, et notamment la Galerie espagnole. À l'âge de 12 ans, il entre au collège Rollin. La scolarité de Manet semble avoir été décevante. Il se montre assez dissipé. Il avait alors comme camarade Antonin Proust. Son père souhaiterait qu'il fasse son droit, mais Manet refuse. Il veut voyager et souhaite rentrer dans la marine, mais il échoue au concours. Alors, le 9 décembre 1848, il est engagé comme pilotin, c'est-à-dire en tant qu'élève officier qui prépare les diplômes de la marine marchande, sur le bateau-école Le Havre-Guadeloupe, en partance pour Rio de Janeiro. Pendant le voyage, qui dure 6 mois au moins, il fait des portraits de tout l'équipage, des caricatures de ses camarades et des officiers. Et c'est aussi à Rio qu'il contracte la syphilis. À son retour, il échoue une deuxième fois au concours de l'école navale. Mais finalement, sa famille consent qu'il poursuive sa carrière artistique. Son père s'est fait une raison, en pensant que finalement, un peintre dans une bonne famille pourrait peut-être avoir des médailles. Alors, en 1850, Édouard Manet s'inscrivit, en même temps que son ami Antonin Proust, entre parenthèses, qui deviendra le premier ministre de la Culture, dans l'atelier de Thomas Couture, le peintre des Romains de la décadence. Malgré cela, Couture, ce fils de cordonnier, était en avance sur son temps. Mais il ne pouvait pas se permettre de le montrer. Dans l'atelier de Couture, Manet reçoit un enseignement complet sur le dessin et la peinture. Manet a appris beaucoup de son maître, les contrastes accusés et une certaine manière d'utiliser les couleurs pures. Il développe un style beaucoup plus proche encore de son maître, comme ici, dans un portrait qu'il fit de son ami Antonin Proust. Ou bien, dans La nymphe surprise. Ou Au bord de l'étang. Mais malgré tout, il y eut beaucoup de divergences entre Couture et Manet. Mais durant 6 ans, Manet a suivi l'enseignement de Thomas Couture. Et il voyagea aussi en compagnie de son frère Eugène, en Hollande, Italie, Espagne. Manet avait de l'argent et du temps libre. Les tensions entre Manet et Couture trouvèrent leur point culminant quand Manet réalisa Le buveur d'absinthe. Manet pense que l'art se doit de refléter les idées et les tendances de son temps plutôt que celui du passé. Il cherche à suivre les préceptes de Baudelaire inspirés par un passage des Fleurs du Mal. Manet peint le chiffonnier alcoolique appuyé contre un mur, son verre posé sur le côté, le personnage, le regard perdu dans le lointain, la bouteille vide à ses pieds renforce le côté tragique de la toile. Couture, malgré son libéralisme, rejette en bloc tout cela. Alors, lorsque Manet montre cette toile à son maître, le couperet tombe. Je ne vois là qu'un vulgaire buveur d'absinthe. Et pire, un peintre qui se glorifie de cette démence. C'est la rupture. Cette toile sera refusée également au salon de 1859, malgré l'avis favorable de Delacroix. Mais Manet poursuit son travail. L'enfant aux cerises. Ce portrait est celui d'Alexandre, le jeune garçon que Manet a recueilli, qui nettoie sa palette et qui lave ses brosses. Cette toile est composée à l'ancienne, mais laisse déjà percer la manière de Manet. On reconnaît sa façon de traiter les chairs, cette touche blonde qui se retrouvera toujours dans sa peinture. La main qui serre les cerises a cette facture spéciale, large et légèrement cernée par endroits, que nous verrons dans toutes les mains de Manet par la suite. Le sourire frais du jeune garçon ne laisse pas entrevoir le drame qui allait se jouer. Ce drame a été raconté par Baudelaire dans son poème en prose « La corde ». Un jour, Manet a surpris l'enfant, volant et buvant de l'alcool. Manet le menaça de dire tout à ses parents et de le renvoyer. Puis il sortit en ville. À son retour, il trouva l'enfant pendu à une armoire. Frappé par ce suicide, Manet déménagea. L'art et la culture espagnole sont devenus très populaires à cette période. Et donc, Manet fit Le chanteur espagnol. Le chanteur espagnol est proposé et accepté au salon de 1860. Cette peinture offre à Manet une certaine gloire et de bonnes critiques. Il est distingué même. Une médaille lui est décernée. Matador Saluant. L'enfant à l'épée. Le ballet espagnol. Le 12 août 1862, la troupe de Mariano Camprubi du Théâtre Royal de Madrid s'installe à l'Hippodrome de Paris, avec comme danseuse principale Lola de Valence. Les deux guitaristes indique la diagonale de la toile. Le centre est représenté par le bouquet. En arrière-plan se trouve une danseuse assise, Lola de Valence, et le danseur Mario Camprubi. Lola de Valence. On a l'impression que la danseuse est sur le point de se produire. L'attention de Manet s'est concentrée sur le rendu de l'habit. La mantille vaporeuse agrémentée d'une passementerie rouge, contrastant avec la jupe à volant, ornée de fleurs très colorées sur un fond noir. Ces détails ne sont pas rendus de façon minutieuse, comme le demande la peinture officielle, mais à peine esquissés par la juxtaposition de taches colorées. Et Manet, avec ce tableau, fit également une allusion à Goya. Victorine Meurant en costume d'espada. La maîtresse de Nadar ou femme allongée en costume espagnol. Cette femme est la maîtresse de Nadar, amie de Manet. Il est en vogue au Second Empire que les femmes se déguisent en hommes. Le fait que Manet souligne davantage le pantalon blanc, pantalon crème plutôt, et les bas blancs que le visage de son modèle peut paraître un peu provocateur à l'époque, des crinolines. Mais le pantalon est considéré à ce moment-là comme très suggestif. Jeune homme en costume de maraud. Matador mort. Jeanne Duval. Jeanne Duval, c'est la maîtresse de Baudelaire, qui est lui-même donc ami de Manet. Il l'appelait ma Vénus noire, car elle était née à Saint-Domingue. Quand Manet la peint, elle a 42 ans. Elle est très malade, hémiplégique depuis 3 ans. Elle se fait soigner dans un sanatorium que Baudelaire réussit à financer malgré ses faibles moyens. Le volume qu'occupe sa robe cherche à masquer la raideur de ses jambes. Son visage est ravagé par le mal et il est volontairement peu détaillé. Musique aux Tuileries. Après le succès du chanteur espagnol en 1860, Manet fréquente assidûment le jardin des Tuileries, où l'on pouvait assister à un concert 2 fois par semaine. Napoléon III lui-même assistait à ces concerts, et une multitude de personnes élégamment vêtues, des femmes en tenue d'après-midi, des hommes coiffés de chapeaux haute forme, se donnait rendez-vous dans les allées du jardin. Manet choisit de représenter les personnages du Paris contemporain. Au premier plan, ici donc, Manet lui-même. À sa droite, on peut voir donc 2 hommes avec le visage de M. Champfleury. Assis à droite, ici, M. Astruc. Les 2 femmes, au premier plan, ne sont autres que Madame Lejaune, chez qui Manet a fait la connaissance de Basile et de Baudelaire, et avec la violette, Madame Offenbach. Derrière les 2 femmes se trouve Baudelaire, à peine esquissé ici, Théophile Gautier et le baron Tyler, qui est alors inspecteur des musées français et amateur de peinture espagnole. Derrière, ici, Fantin-Latour. Là, son frère, Eugène Manet. À côté, Jacques Offenbach. De profil, Charles Mogineau, peintre ami de Manet. Le point de vue légèrement rehaussé et un peu éloigné, donne beaucoup de relief au personnage, soulignant un peu l'aspect fortuit de la situation, en particulier au niveau des figures du dernier rang. Le tableau, exposé à la Galerie Martinet en 1863, déconcerte les visiteurs qui perçoivent les visages des personnages comme des caricatures. Le rendu des corps est approximatif, des tâches, disent certains. Le sujet ouvertement anti-académique est considéré comme vulgaire, relégué au rang des illustrations de reportages. Même les chaises, pourtant, en fer forgé et de dessin moderne, n'ont pas leur assentiment. Ce dessin, s'il y a un orchestre, il n'y paraît pas pourtant sur le tableau. Et pourtant, c'est musique aux Tuileries. Le public ne vit dans cette œuvre qu'une simple esquisse, manquant de facture et de sentiment. La toile fut réalisée essentiellement en atelier. Ensuite vint le déjeuner sur l'herbe, suivi un an après d'Olympia. Manet, ce peintre qui provoque tous les scandales, n'en est pour le moins pas surprenant. En effet, on aurait pu s'attendre à voir un artiste un peu bohème, un peu négligé, ou pour le moins en marge. Eh bien, pas du tout. C'est un vrai dandy, toujours très élégant, avec la canne et les gants, parlant poésie et littérature. Le poète Théodore de Banville le décrit ainsi. Ce riant et blond Manet, de qui la grâce émanait, gai, subtil, charmant en somme, sous sa barbe d'Apollon, eut de la nuque au talon un bel air de gentilhomme. Et pourtant, Manet est ridiculisé. Il n'en peut plus. Du coup, il provoque tout ce qu'il a provoqué, il ne le supporte pas, et fuit en Espagne en 1865, ce qui va lui permettre finalement d'étudier Velázquez. Ici, le tragédien. Il s'agit d'un portrait de M. Rouvière dans le costume d'Hamlet. Le chiffonnier en 1869, étude de plein pied d'un vieil homme sur un fond sombre, caractère spécifique des œuvres de Velázquez. Durant son séjour en Espagne, Manet assiste à plusieurs corridas à Madrid et peint de nombreux tableaux, comme le combat de taureaux et la corrida, avec des techniques extrêmement vivantes. Le soleil et les zones d'ombre, le sang qui coule, tout produit l'atmosphère d'une corrida. L'exécution de Maximilien. Cette peinture illustre un épisode bien connu dans l'histoire quand Napoléon III retire son armée du Mexique en 1866. Maximilien, l'empereur du Mexique, est capturé le 19 juin 1867 et condamné à mort pour l'exécution qu'il a ordonnée. On sent l'odeur de la poudre. Le militaire prêt à donner le coup de grâce. Les funérailles. Il s'agit des funérailles de Baudelaire qui ont eu lieu le 6 septembre 1867. Il y avait plus de 100 personnes à l'église, mais très peu suivirent le convoi à cause de la chaleur. Le fifre. 1866. Manet inonde la toile de lumière et utilise les ombres uniquement pour les mains. Les couleurs en large trait sont une synthèse étonnante des courants japonais et espagnols. Le déjeuner à l'atelier, 1868. Cette scène est située dans la salle à manger de l'appartement de Boulogne-sur-Mer, où Manet passe 6 semaines durant l'été 1868. Le personnage au premier plan n'est autre que Léon Coella, nous en reparlerons. L'homme au cigare, Auguste Rousselin. La femme, un modèle de Boulogne. Présentée au salon de 1869, l'œuvre est diversement appréciée. Certains admirent les armes anciennes, d'autres regrettent une nouvelle fois le prosaïsme du sujet. Et pourtant. Madame Manet. Il s'agit de Suzanne Linhoff, hollandaise, qui entre au service de Monsieur et Madame Manet, père, en 1849, comme répétitrice de piano pour Eugène et Édouard. En 1851, elle s'éclipsa et revint avec son frère, entre guillemets, Léon Coella, né en 1852, qui fut baptisé 3 ans après sa naissance. Manet voit régulièrement Suzanne dans un appartement proche de la maison familiale et la peint. Donc dans la nymphe surprise, également dans les temps. Mais Suzanne devint Madame Édouard Manet en 1863, le père de l'artiste s'étant éteint en 1862. Beaucoup de polémiques là-dessus, sur ces différents faits. Enfin, donc, Manet continue à peindre sa femme. La lecture. Manet dira de sa femme, « Il s'agit d'une friandise un peu grasse, mais facile à digérer. » Manet peint Léon à différents âges. Léon appelait Manet parrain. Et Suzanne le reconnut comme son fils à la mort de l'artiste. Berthe Morisot, au bouquet de violettes. Il la rencontra alors qu'elle copiait des tableaux au Louvre avec sa sœur Edma. Entre les deux peintres, la reconnaissance, puis l'estime, et enfin la sympathie avec un grand S furent remarquables. Les artistes restèrent intimes tout au long de leur vie. Elle posa pour lui, se maria avec son frère pour rester dans la famille, l'influença vers l'impressionniste. Le balcon. Manet louait un atelier à Argenteuil. Ses amis sont allés sur le balcon pour lui dire au revoir et il a pensé à un autre tableau, un tableau de Goya, les Marats au balcon. Berthe Morisot y est représentée au premier plan. On peut voir son caractère déterminé dans son regard. Mademoiselle Claus, violoniste. Antonin Guillemet. On peut noter la couleur de la balustrade, ce vert sulfate caractéristique qui fait dire aux détracteurs de Manet qu'il est sans doute un meilleur peintre en bâtiment. Donc il peignit Berthe Morisot. Et ici, ce fut le dernier tableau qu'il peint de Berthe Morisot. Pourquoi ? Tout simplement parce que Berthe venait de se fiancer avec son frère Eugène et portait la bague au doigt. À partir du moment où elle s'est fiancée avec son frère, Manet refusa de la peindre par la suite. Manet eut comme élève Eva González. C'est la seule élève que Manet eut. Et il l'a peint en train de peindre, ce qui fit que finalement Berthe Morisot, était très jalouse de voir que Manet a peint Eva González en train de peindre et elle n'a jamais été peinte en train de peindre. Simplement, il suffit de remarquer une chose. Dans ce tableau, le cadre est déjà présent. Stéphane Mallarmé. Petit tableau rapidement peint en une seule pose de son ami et poète Stéphane Mallarmé. La bataille du Kersag. Le 19 juin 1864, au large de Cherbourg, le navire Alabama est coulé par le Kersag. Le capitaine Raphaël Sem, sudiste, avait déjà coulé 65 bateaux nordistes avant de faire escale à Cherbourg. Au moment où il quitta le port, la bataille s'engagea avec le Kersag. Et ici, tout est peint avec beaucoup de détails. Le gris de la fumée rend la scène presque réelle. Le sauvetage des marins avec un bateau au pavillon blanc. Sur la plage, 1873. Ce tableau représente Eugène Manet et Madame Manet sur la plage à Berck. Il rappelle par sa composition les estampes japonaises. Chemin de fer. Elle est présentée avec succès au salon de 1873 et permet d'asseoir la réputation en tant que chef de file de l'impressionniste de Manet. Bal masqué à l'Opéra en 1873. C'est une des dernières toiles peintes avant l'incendie de l'Opéra. Manet capte l'atmosphère assez frivole de ce genre de fête et ressemble beaucoup au tableau musique aux Tuileries. Argenteuil, 1874. Il s'agit d'une des meilleures peintures en plein air de Manet. La toile est inondée de soleil. Canotage. Composition audacieusement coupée laisse penser que l'observateur est dans le bateau. La prune. Les ravages de l'absinthe et de l'alcoolisme sont bien connus au XIXe siècle. Le tableau semble être inspiré par une scène observée à la Nouvelle Athènes, café à l'époque très connu. La légèreté de la touche et de la palette délicate, le personnage semble encadré par des jeux de lignes verticales et horizontales. Le marbre de la table est rendu avec une attention particulière. La coupe avec une prune à l'alcool donne son nom au tableau. Marguerite de Conflans. Peinte sur un fond noir pour accentuer le noir de la chevelure et de ses sourcils et le blanc laiteux de sa peau. Nana, 1877. Cette toile représente une scène de la vie contemporaine et un peu osée. Une femme se maquille alors que le client attend sur le divan. C'est un scandale de plus. La femme n'est autre que Henriette Hauser, la maîtresse du prince d'Orange, qui la nomma lui-même « mon petit citron ». La blonde au sein nu. Cette toile ressemble beaucoup aux toiles de Renoir, par exemple. Irma Brunner, ou la femme au chapeau, 1880. Cette toile est faite au pastel. Manet commence à fatiguer. Il est plus facile pour lui d'utiliser le pastel. Par ailleurs, Manet aime les cafés. Scène de café, Il aime les ambiances de brasserie, de café, où il retrouve tous ses amis. Le café Garbois, Tortoni, la Nouvelle Athènes. Et les pains. La serveuse au boc en 1873. On peut noter le regard déterminé de la serveuse. Au père Latuile. Ici, le talent de l'artiste s'exprime pleinement. C'est un hymne à la couleur. Les harmonies de jaune et de vert, les balayages, tout ça se complète. La serre, représentant Monsieur et Madame Guillemette. Elle est américaine. Il s'occupe essentiellement de mode et de haute couture. Le bar aux Folies Bergères. Il s'agit du dernier grand chef-d'œuvre du peintre. Cela ressemble à un adieu à la vie parisienne. Tout y est très précis. La serveuse, par exemple. La serveuse n'est autre que Suzon. Elle fera toute sa carrière aux Folies Bergères. D'abord en tant que serveuse, à ce moment-là on n'appelait pas ça une serveuse ni une barmaid, mais une licoriste. Puis, elle devint Madame Pipi. Les bouteilles sont bien décrites. En arrière-plan, dans le miroir, on peut noter la présence déjà d'une trapéziste ici. On voit les pieds, les chaussures, les souliers. Une petite digression. Manet est fétichisme. Il adore les souliers. Et là, on voit donc, on peut voir deux en arrière-plan deux demi-montaines. Ici, donc, Mary Laurent et l'autre, Irma Brunner. Tout est très précis. On peut noter également les bijoux qui étaient un petit peu ceux qu'on pouvait voir sur Olympia, notamment le bracelet. La fameuse polémique où la serveuse nous regarde de face. Nous sommes donc la personne qu'elle va servir. Or, lorsqu'on regarde dans le miroir, on voit qu'il s'agit d'un homme. À partir de 1881, la santé de l'artiste se détériore. La syphilis tertiaire est là, avec son lot de douleurs et de paralysie, ce qui le contraint à ne peindre que des scènes de jardin, des natures mortes ou des vases de fleurs. Sur le conseil de son médecin, il passe les étés à Bellevue. Bellevue, Versailles et Rueil. Le jardin de Bellevue. On retrouve ici un peu le style de Monet ou de Pissarro. La maison de Rueil. Manet est très intéressé par les natures mortes et peignit les asperges. Cette toile qui fut vendue au riche banquier Monsieur Effruzy, qui la paya plus cher que prévu. Alors Manet fit une seconde toile et lui adressa avec ces mots « Je crois qu'il en manquait une dans la botte ». Autre nature morte, à la carpe. Chaque élément est peint séparément. L'atelier de Manet est toujours rempli de fleurs. Chaque jour, il reçoit un nouveau bouquet. Rose et tulipe. Rose et lilas blanc. Œillet et clématite dans un vase de cristal. Le reflet de l'arrière-plan légèrement violacé et les touches de blanc mêlées au vert des tiges définissent la transparence du vase. Quelques petites touches dorées ajoutent une note complémentaire de vert. Lilas blancs. Posés dans un vase transparent, les lilas blancs sont savamment arrangés. Manet meurt le 30 avril 1883 à Paris, des suites de la syphilis. Et il est enterré. Mince, qu'est-ce qui se passe? Et il est enterré à Passy. Édouard Manet est un peintre de son époque, qu'il a représenté sans complaisance avec un seul souci, celui de peindre ce qu'il voyait. Il s'en est suivi beaucoup d'incompréhension de la part des critiques et du public. Les scandales faits autour du déjeuner sur l'herbe ou d'Olympia l'ont profondément marqué. Heureusement, sa notoriété de dandy et sa fortune lui ont permis de vivre et d'être le chef de file d'un nouveau style, l'impressionnisme. Et comme le dit son ami Félix Braquemont en ayant fait cette exlis bris, Manet et man bit, qui signifie « il reste et restera ».
Merci, merci cher ami, merci Muriel pour cette présentation de Manet et la façon dont tu nous as permis de regarder les tableaux avec beaucoup de précision, beaucoup de détails, tout en nous expliquant, je veux dire, sans commentaire excessif, mais vraiment en regardant, en montrant bien ce qu'on devait regarder dans chaque tableau. C'était tout à fait intéressant. Alors, il y a peut-être, avant un tout petit peu de temps, est-ce qu'il y a quelques spécialistes de la peinture ou d'amateurs de Manet qui voudraient apporter, poser une question, porter un petit complément, je ne sais pas, je vous écoute. Oui, non, 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 je ne vois personne. Si, ah, voilà.
Oui. Il a été dit à plusieurs reprises que Manet était le chef de file des impressionnistes.
Oui.
Or, quand on regarde le déroulement de sa carrière et sa production, on s'aperçoit qu'il a surtout peint de manière impressionniste en 1874-75, en gros, si mes souvenirs sont bons. Alors, qu'est-ce qui fait dire, au fond, que réellement, c'est un chef de file des impressionnistes, alors que d'autres peintres français auraient pu prétendre à ce titre?
Eh bien, ce qui le fait dire cela, c'est tout simplement parce qu'il avait beaucoup d'amis. Tout simplement ça, c'est-à-dire que lors des réunions dans les cafés, c'est lui qui a incité un petit peu les autres à continuer à peindre comme cela. Mais en vérité, ce n'est pas vraiment un impressionniste, Manet. Manet n'est pas un impressionniste, mais il a encouragé les autres à faire ce style-là. Et c'est au cours des différentes discussions qu'il avait pu avoir lors des cafés, lors de ses réunions, parce qu'il se réunissait beaucoup à ce moment-là, et c'était un dandy, il avait une prestance incroyable. On allait chez lui non pas pour aller voir ses tableaux, tout le monde s'en fichait de ses tableaux à ce moment-là, mais il avait de la conversation, c'était quelqu'un qui savait parler, il avait une aura, et ça lui a permis justement d'être considéré comme le chef de file des impressionnistes. Mais effectivement, d'autres peintres auraient pu avoir ce titre.
Et puis il avait beaucoup d'amis écrivains.
Voilà, oui.
Baudelaire, qui l'a soutenu.
Baudelaire, Zola, Mallarmé, etc.
Et il était dans son époque. Mm. Voilà. Mireille, je vois que tu as très envie, tu as le droit d'occuper ton masque une minute pour qu'on t'entende.
Oui, je ne suis pas du tout spécialiste de l'impressionnisme, mais je voulais savoir comment Manet considérait la photographie, puisque finalement sa peinture semble faire œuvre de reproduction de ce qu'il voit de son époque, comme un peu la photographie. En fait, comment la considérait-il donc ?
Manet ne s'est pas trop intéressé au premier abord à la photographie. Mais Nadar était son ami, donc, mais c'était pas tellement son sujet, la photographie, malgré tout. Il préférait peindre un peu différemment que d'autres peintres qui sont vraiment intéressés à la photographie.
Il y a aussi l'influence espagnole qui est vraiment très, que je n'avais pas bien perçue d'ailleurs dans la peinture de Manet. L'influence espagnole est très importante.
L'influence espagnole est très importante à cette période-là, du fait justement que Eugénie était espagnole.
Ah, ça peut expliquer.
Donc, Eugénie étant espagnole, elle a amené toute la culture espagnole et tout était très hispanisant à cette période-là. Et c'est ça qui a fait que cela. Et de même qu'il y a eu le japonisme aussi, beaucoup plus important aussi à ces périodes.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, encore une fois, pour...